Bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour le retard. Je tiens en premier lieu à dire que c'est vraiment un plaisir et puis aussi un privilège là, pour moi d'être ici ce soir. Je pense que plusieurs ici me connaissaient là, déjà. Là. Je suis Mathieu Caron, je suis un des trois pasteurs là, de l'Église baptiste de Shawinigan-Sud. Ça fait déjà 11 ans depuis la dernière fois que je suis venu faire une présentation ici un dimanche soir. Il y a 11 ans, j'ai fait ici une présentation sur un ministère là, que j'avais eu envers les enfants de la rue à Glasgow, en Écosse. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici 11 ans, le soir où j'ai... Ah, quelques personnes hein, qui se souviennent, qui ont une bonne mémoire. C'est toujours un plaisir de visiter l'église des frères ici du Cap-de-Madeleine. Vous savez, votre ministère jeunesse a été utilisé par Dieu durant mon adolescence. Je suis venu ici il y a 15 ans, fréquenter plusieurs années votre groupe jeunesse. Et puis, à cette époque-là, c'était Jean-Claude La Rochelle qui s'occupait du groupe jeunesse. Et puis, en tout cas, ça a eu vraiment un bon impact dans ma vie. À cette époque-là, il n'y avait pas de ministère jeunesse à mon église. Et puis, ça a été vraiment apprécié, là, en tout cas, dans ma vie. Ce soir, ma prière, puis c'est toujours la même quand j'enseigne la parole de Dieu, que ce soit à mon église ou dans une autre église, c'est que Dieu utilise mon effort imparfait, parce que je pense qu'à plusieurs degrés, toutes les prédications qu'on peut monter, qu'on mette 15 heures, 20 heures, 25 heures, qu'on aille un doctorat en théologie, de longues études, qu'on passe 20 heures dans la prière avant de venir prêcher, je pense que ultimement, c'est important de bien se préparer, mais je pense que c'est toujours un effort qui demeure humain et imparfait. Puis ma prière, c'est que le Seigneur puisse utiliser mon effort imparfait ce soir pour m'édifier et puis vous édifier et puis tourner nos regards là, vers Christ. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui me passionne vraiment. J'aimerais vous parler de notre identité comme étant des porteurs de l'image de Dieu. Je ne sais pas si à l'arrière, ils ont réussi dans ma clé USB à trouver le PowerPoint de ce soir. Oui, je vois que c'était ici, mais pas à l'écran. Peut-être qu'il faut allumer. Ou je ne sais pas si c'est... je pense que ça s'en vient. Oui. Parfait, ça va aller mieux. J'aimerais vous parler de notre identité. Vous savez, j'observe que bien des difficultés que l'on vit dans nos vies ici-bas, dans notre lutte contre le péché, bien des difficultés dans nos problèmes relationnels également, qu'on a dans notre famille, notre couple, etc., je pense que ça provient souvent du fait que l'on ne connaît pas qui nous sommes d'une manière suffisamment claire. On sait intellectuellement tous ici qu'on est des enfants de Dieu. Je poserai la question, puis qu'est-ce qui nous définit? Puis certain que un dimanche soir à l'église, hein, tout le monde dirait, ben, c'est Dieu, puis c'est Christ, et puis on est des enfants de Dieu, on est de nouveau. Ça, c'est une vérité qu'on connaît au niveau intellectuel, mais qui, le lundi matin au travail, le lundi matin à l'école, le vendredi soir, peu importe où on est, c'est une vérité qui, trop souvent, va rester dans le disque dur en arrière, mais qui va être absente au niveau du cœur. On connaît bien des vérités de la parole intellectuellement, puis parfois on va manquer là, à les appliquer dans notre vie de tous les jours. Et puis, il y a un principe important, ce qui nous définit, nous contrôle. Et puis, on va souvent agir dans la vie de tous les jours conséquemment à qui on pense que l'on est. Si moi, je me définis comme un athlète, ce qui n'est malheureusement pas le cas, là, cette vision-là de ma vie va m'amener à centrer ma vie sur mon entraînement, sur ma diète. Je me souviens, quand j'étais étudiant en chiropratique à l'UQTR, il y avait un de mes collègues de classe qui a fait deux fois les Olympiques, il a fait une troisième fois en 2012 à Londres. Lui avait un entraînement très, très rigoureux, puis une diète vraiment rigoureuse qui m'impressionnait beaucoup à l'époque, là. Vraiment, là, à 5 heures le matin, chaque jour, à l'année longue, il s'entraînait le midi, puis le soir. Puis à 10 heures dans le break, qu'il y a eu un break ou pas, il ouvrait la canne de tel poisson, puis tel supplément, puis en tout cas, ça m'impressionnait beaucoup. Et puis pour lui, ça n'avait pas de l'air compliqué, ça n'avait pas de l'air difficile, mais on lui aurait demandé qui il est, puis il vous aurait répondu, en premier lieu, ben je suis un athlète. Je suis quelqu'un qui fait du kayak. Tu sais? Il se définissait comme un athlète, et puis le reste de sa vie en découlait. Certains vont se définir par leur carrière. Et puis, ils vont passer 40, 60, 70, 80, 100 heures semaine dans leur carrière. Puis, ça découle, hein, ça coule tout seul. C'est même pas un effort de volonté de faire ça. Certains vont se définir par leur don. Moi, je suis un musicien. Leur talent. Puis, leur vie va être contrôlée à bien des niveaux par l'exécution de leur don, l'exécution de leur talent. Puis, bon, moi, ce soir, j'aimerais vous parler de comment on devrait tirer notre identité première selon Dieu, selon la parole. Et puis, comment, si on y parvient à entretenir cette identité-là au niveau de notre cœur, ben, le reste dans notre vie va découler plus facilement. On parle pas souvent de nos jours de l'importance pour Dieu d'avoir des porteurs de son image sur Terre. Pourtant, ça a toujours été... La Genèse, l'Apocalypse, de la plus grande importance pour Dieu d'avoir des gens à sa ressemblance sur Terre. Puis c'est une manière pour Dieu de faire éclater là, sa gloire. Donc, avant d'aller plus loin, puis j'ai jusqu'à quelle heure ce soir? Excellent. Fait que, avant d'aller plus loin, ben, prions ensemble, courbons nos têtes. Oui, Père Céleste, je te prie de nous parler ce soir, de nous rencontrer d'une manière personnelle. Utilise, Seigneur, ta parole et puis l'enseignement qui va être amené pour changer nos vies d'une manière pratique. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence avec nous ce soir. Dans le nom de Christ. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme à son image? Quand Dieu a créé le monde, vous savez... créer les végétaux, puis les animaux, puis le ciel, la terre. Pourquoi il a décidé de créer une créature qui serait vraiment à son image? Parce que dans bien des religions, dans bien des mythes, on a un récit d'un Dieu qui a créé toute la terre. Mais c'est quasiment unique au christianisme, le fait que le Dieu de l'univers ait créé des gens qui portent son image. On voit ici dans Genèse 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pourquoi? Pourquoi Dieu, dans toutes les races, puis toute la création qu'il a faite, pourquoi il a créé une créature, une race, qui vraiment porterait son empreinte, sa ressemblance, son image. Vous savez, les souverains d'autrefois se plaisaient à placer des statues de eux-mêmes en territoire conquis. Puis encore de nos jours, même en 2010, on a sur notre monnaie, sur des timbres, parfois des images là, de souverains. Souvenez-vous, entre autres, là, dans l'histoire de Gédéon, là, dans l'Ancien Testament, il y avait une statue de Baal, qui n'était pas vraiment quelqu'un qui existait. Et puis, quelle a été la réaction des villageois quand ils ont appris que Gédéon avait brûlé la statue, l'avait détruite? Oui, il voulait tuer Gédéon. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Et puis, c'est arrivé parce que, de tout âge, quand un souverain plaçait sa statue dans un territoire conquis, c'était considéré comme de la haute trahison. Comme un crime très grave de salir, de mépriser la statue du souverain. C'est spécial, hein? On voit ça aussi à l'époque de Nebuchadnezzar, hein? Vous savez qu'il avait placé dans dans la vallée de Dura une statue d'or de lui-même. Tout le monde, là, au son d'une fanfare, là, devait s'agenouiller et puis adorer là, la statue. Pour les rois, leur image, c'était vraiment du sérieux. Et puis de placer des statues d'eux-mêmes un petit peu partout sur leur territoire, c'était une manière d'affirmer leur autorité une manière d'établir leur gloire, une manière d'être glorifié. Dieu a créé l'univers entier, et puis lui aussi voulait avoir des statues de lui-même sur son territoire, hein, sur la planète Terre. À la différence des rois qui ont des images là, statiques, mortes, Dieu voulait avoir des images vivantes de lui-même. Ça, évidemment, il n'y a aucun roi qui n'a jamais pu avoir ça, mais c'était le désir de Dieu. Dieu, un peu de la même manière que les souverains de jadis, a créé une créature, la race humaine, qui portait son image. Une race entière de statues vivantes à son image. Donc, le but de la création, le but de l'univers, c'est de glorifier Dieu. Et puis, si Dieu a créé une race entière à son image, c'était pour que sa gloire soit proclamée puis affirmée là, sur toute la terre puis dans l'univers qu'il avait créé. Donc, c'est spécial de dire que Dieu veut que sa gloire soit proclamée, puis on voit que pour Dieu, là, Dieu met toutes sortes de choses en œuvre pour que sa gloire soit proclamée. On est habitué que c'est négatif. Quand quelqu'un là, travaille pour sa gloire, ben, c'est un vantard et puis c'est pas de quoi de bon. Mais pour Dieu, c'est une exception. Lui peut travailler pour sa gloire parce qu'il n'y a rien de plus haut puis de mieux que Dieu. Là. Donc, c'est pas mauvais pour Dieu de rechercher sa gloire. Exalter puis adorer Dieu, c'est la meilleure chose à faire. Donc, jusque-là, tout va bien. Le Dieu Tout-Puissant a créé la terre, l'univers. Il décide d'avoir des statues vivantes qui vont glorifier, qui vont démontrer puis affirmer son autorité, sa gloire partout sur le territoire. Malheureusement, il arrive un événement qu'on appelle la chute. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, la chute originelle, c'est là où les choses ont commencé à se gâter. La chute originelle, c'est l'expression là, qui désigne le fait qu'en péchant, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Adam et Ève soient morts spirituellement. Donc, la Bible affirme que c'est ce péché-là qu'Adam et Ève ont commis là, qui nous a amenés à avoir une nature pécheresse. Une force en nous-mêmes qui nous pousse à faire le mal, à croire des mensonges. Et puis, c'est ce péché-là d'Adam et Ève qui fait de notre vie chrétienne puis de notre lutte contre le péché un combat, une lutte. C'est difficile de comprendre comment le péché d'une autre personne dans un lointain passé peut nous affecter autant. Permettez-moi de vous donner un exemple pour tenter d'expliquer cela. C'est un petit peu comme si Adam était, en quelque sorte, le représentant de l'humanité. Puis, quand il est allé en guerre contre Dieu, il a également amené la race humaine en guerre contre Dieu. C'est un peu comme si notre premier ministre Harper, déclarait la guerre à la Chine. Qu'on soit des amis des Chinois ou de la Chine, ici, ça n'aurait pas d'importance. Si notre premier ministre qui nous représente va en guerre contre la Chine, même s'il l'a fait il y a 10 ans et qu'ils sont toujours en guerre, qu'on le veuille ou non, ben nous, comme citoyens canadiens, ben on est en guerre, nous aussi, contre la Chine. C'est un petit peu le même principe qui s'est produit là, il y a plusieurs milliers d'années là, dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché. Ils ont été créés parfaits, sans péché. Il n'y avait pas une nature pécheresse comme nous au départ, mais quand ils ont péché, ben il y avait une malédiction qui était rattachée à ce péché-là, la mort. Évidemment, l'histoire nous dit que ce n'était pas une mort physique immédiate. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, ils ne sont pas tombés raides morts. Par contre, au lieu de vivre éternellement, il y avait une mort physique là, qui était à suivre là, quelques centaines d'années plus tard. Ils vivaient plus longtemps que nous à cette époque-là. Et puis, deuxièmement, il y a eu une mort spirituelle qui a été immédiate quand ils ont péché contre Dieu. Maintenant, depuis ce temps-là, comment quelqu'un qui est mort spirituellement quand il va avoir des enfants, comment ses enfants peuvent être vivants spirituellement? Ben, c'est impossible. Puis c'est pour ça que toute l'humanité qui descend d'Adam et Ève ben, sont morts spirituellement, puis naissent morts spirituellement avec des natures pécheresses. Parce que c'est une mort qui se transmet de génération en génération. Donc, on voit ça d'ailleurs ici, au prochain verset, que cette mort spirituelle-là nous empêche d'apprécier les choses de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous amène là, à nous repentir, puis à se convertir. Là, puis, parce qu'on voit vraiment que cette nature-là nous amène, là, étant non-chrétien, puis même par après dans la vie chrétienne, cette nature pécheresse-là nous amène à faire le mal, et puis je ne crois pas comprendre là, les choses de Dieu. Heureusement, maintenant, nous, on a l'Esprit Saint, là, fait que ça change la donne. Là. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'avant même le péché d'Adam et Ève, avant même que ça se produise, il avait prévu de sauver une portion, en tout cas, de la race humaine. Et puis, il l'a fait par le salut à la croix. Donc, on peut vraiment être reconnaissant au Seigneur. Il aurait pu tout annuler ou ne pas créer l'homme, sachant qu'on allait choisir de pécher, mais vraiment, là, Dieu avait prévu là, de sauver là, ses enfants. Donc, tous les individus qui mettent leur foi là, en Christ, gratuitement, puis qui vivent une nouvelle naissance. Une question qu'on peut se poser, si ce que je dis est vrai, maintenant, pourquoi les enfants de chrétiens naissent-ils, eux aussi, morts spirituellement? Si la raison pour laquelle la nature pécheresse, ça nous est transmis parce que Adam et Ève étaient morts spirituellement, ben, nous qui sommes nés de nouveau, pourquoi nos enfants sont pas, ils naissent pas vivants spirituellement? Ça, c'est une question qu'on peut certainement se poser. Un parent mort spirituellement ne peut pas avoir des enfants vivants spirituellement, ça c'est clair. Mais pourquoi nous qui sommes des chrétiens, vivants spirituellement, pourquoi nos enfants ne sont pas vivants spirituellement? C'est parce que notre salut est progressif. On n'a pas encore notre corps glorifié. On a l'Esprit Saint, qui est la garantie qu'on va le recevoir un jour, ce corps glorifié-là. Mais comme on a encore un corps pécheur, puis qu'on n'a pas encore notre corps glorifié, c'est pour ça que nos enfants, quand on en a, là, malheureusement, là, naissent morts spirituellement eux aussi, puis eux aussi doivent passer par la conversion. Si on avait nos corps glorifiés, ben, ils naîtraient là, purs, sans nature pécheresse. Une autre question qu'on peut se poser, c'est cette image de Dieu-là, a-t-elle été perdue par la chute originelle? Oui, Dieu a créé Adam et Ève à son image. Il voulait avoir des statues vivantes pour leur présenter. Mais lors de la chute, on sait qu'on est mort spirituellement. Avant la croix, là, avant que le Seigneur nous régénère et nous envoie son Saint-Esprit, on sait qu'on est mort spirituellement. Est-ce que cette image-là, l'image de Dieu a été perdue par la chute originelle? Ou est-ce que l'image de Dieu demeure encore dans la race humaine aujourd'hui? Question importante, elle aussi, une question cruciale. Moi, j'aimerais vous convaincre ce soir puis vous amener que l'image de Dieu n'a pas été perdue. Oui, on est complètement mort spirituellement depuis la chute, mais l'image de Dieu, par la grâce de Dieu, la bonté de Dieu envers les hommes, cette image-là a subsisté. Elle a été abîmée, et plus telle qu'elle était, mais cette image-là a quand même subsisté, puis subsiste quand même chez les humains qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Souvent, on se plaît en théologie, ceux qui ont étudié un peu la théologie, à séparer la grâce de Dieu en deux catégories. La grâce spéciale puis la grâce commune. Ici, on voit la grâce commune. Comment est-ce possible qu'il y ait du bon sur la terre? Pourquoi il y a des tablés populaires? Pourquoi il y a des organismes de charité, de bienfaisance pour toutes sortes de problèmes? Pourquoi les hommes ne sont pas, les hommes non-croyants, pourquoi ils ne sont pas aussi méchants que leur nature leur permettrait de l'être? Pourquoi ce n'est pas l'enfer sur terre? Des fois, on dirait, hey, ça l'est quasiment, mais croyez-le ou non, ça pourrait être pire. C'est parce que le Seigneur, par sa grâce, sa bonté exercée envers les non-croyants, retient le mal, en partie, même chez les non-croyants. Puis le Seigneur va donner de bonnes choses aux non-croyants qu'ils ne connaissent pas. De l'ingéniosité, une certaine forme de charité. Le Seigneur étend sa grâce sur tous les humains, sur les non-croyants comme sur les croyants. Et puis, on voit de la persévérance, on voit du courage chez les non-croyants, on voit de la fidélité, on voit toutes sortes de choses. Et puis, quand on voit ça, on voit l'image de Dieu qui est abîmée, mais qui existe encore dans la race humaine. Quand on voit toutes les inventions, il y en a qui sont bien mauvaises, mais il y en a qui sont quand même bonnes. Ben ça, c'est la grâce commune de Dieu. Il y a un grand théologien, il y a 250 ans, qui s'appelait Jonathan Edward, qui a dit que ça serait l'enfer sur terre si Dieu, par sa grâce, ne retenait pas partiellement les personnes qui ne sont pas sauvées. Donc, lui, ce théologien-là, a dit que ça serait l'enfer sur terre. Mais Dieu, il retient les non-croyants d'être aussi méchants qu'ils pourraient l'être, puis que la nature leur permettrait de l'être. Donc, on voit dans le fait que l'image de Dieu a été préservée, vraiment, là, la grâce de Dieu. On le voit un petit peu au verset précédent que j'ai passé. Ici, on voit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu a créé Adam à son image. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Donc, c'est intéressant de voir que entre le verset 1 et le verset 3, il y a la chute. Mais pourtant, l'image de Dieu, elle subsiste. Le lien continue même après la chute rendue au verset 3. C'est pour ça que j'ai mis le verset ici. On a également la bonté de Dieu envers les croyants. Ça, c'est la grâce spéciale. C'est le fait que Dieu va nous sauver. Hey, c'est toute une bonté, ça. Que le Seigneur nous donne la vie éternelle, qu'on n'ait plus à subir d'enfer, qu'on soit parfaitement pur. Que quand le Père nous regarde, il voit la pureté de Jésus-Christ. On est innocent, on n'a plus aucune culpabilité devant Dieu. Ça, c'est la grâce spéciale, c'est une bonté incroyable, qui est spéciale, hein, le mot dit, là, de Dieu par rapport à nous. Jamais, là, je vous demandais, quelle est la chose la plus importante que Jésus-Christ a accomplie en venant sur la terre? Je pense que la plupart des croyants ici dans la salle répondraient sans hésitation. Jésus est venu mourir sur la croix pour moi. Je pense que sans hésitation, au 21e siècle, la plupart des croyants répondraient cela. Et puis, vous auriez raison, cette réponse-là est tout à fait biblique. Par contre, si on avait demandé la même question à une autre époque, les croyants auraient peut-être répondu une réponse différente, mais qui est tout aussi biblique. Jésus est venu sur la terre pour que, au moins une fois dans l'histoire de l'humanité, l'image de Dieu soit parfaitement présente sur terre, pour que la gloire de Dieu soit vraiment manifestée. Dans une autre époque, les croyants vous auraient répondu, là où l'homme a manqué, ben Jésus a réussi. Et puis, là où le but de glorifier Dieu en ayant une image parfaite sur terre a manqué, ben ça a eu lieu avec Jésus-Christ. Jésus a été l'image parfaite du Père. Une image qui n'a pas été brisée, qui n'a pas été abîmée. Une image parfaite durant tout son temps sur la terre. Et puis, Dieu en a été glorifié comme jamais il avait été glorifié depuis la création du monde. Donc, là où Adam et Ève ont tout bousillé, ben Jésus a réussi. Ici, dans 1 Corinthiens 15, on voit, puis le chapitre en parle au complet, là, j'ai mis seulement le verset 22 puis 45, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc, Jésus n'est pas venu sur la terre que pour mourir sur la croix. Il est aussi venu pour que la gloire de son Père vraiment là, soit manifestée, soit démontrée, soit affirmée. Ce que j'aime dans cette manière de voir les choses, c'est que c'est centré sur la gloire de Dieu et pas sur nous-mêmes. Des fois, on est porté à comprendre la parole, les Écritures, vraiment là, en étant centré sur l'effet sur nous. C'est intéressant d'essayer de lire les Écritures puis de comprendre les choses d'une manière centrée sur Dieu. Donc, l'histoire du monde n'aurait pas pu se terminer si Christ n'avait pas accompli son rôle d'image de Dieu. Ça n'avait jamais été accompli. Ça devait être accompli au moins une fois avant que le monde finisse. Et puis, ça n'aurait pas pu se terminer, l'histoire du monde, si Christ n'avait pas accompli son rôle d'image de Dieu. Et puis, quand Christ a crié à la croix, vous vous souvenez, là, tout est accompli, il avait raison. Puis, il venait vraiment d'accomplir parfaitement ce que Dieu avait toujours voulu. Et puis, il venait aussi d'accomplir notre rédemption, notre salut, là, comme j'ai parlé tantôt. si j'arrêtais ma prédication ici, vous pourriez vous dire, ah, ben, c'est intéressant, c'est de la théorie. Mathieu a prié tantôt pour que le Seigneur nous travaille et nous change cette semaine de manière pratique. Puis vous pourriez, avec justesse, peut-être vous dire, hey, c'est de la théorie, mais où est l'application? Comment moi j'applique ça à ma vie, demain matin au travail ou à l'école, le fait de l'image de Dieu dans la race humaine, etc. Quelles sont les implications pour nous d'être créés à l'image de Dieu? La première implication, c'est de travailler à notre sainteté, à la croissance spirituelle. Vous savez, Dieu veut réparer cette image-là qui subsiste dans la vie de chaque croyant, mais qui est abîmée à la chute. Dieu veut la réparer, il veut la restaurer. Dieu veut ramener nos vies, nos personnes, jusqu'à un jour refléter parfaitement son image. Et puis, ça va arriver. Hein? Tous les croyants, un jour, au dernier jour, on va refléter parfaitement l'image de Dieu. Pas sur terre, malheureusement, pas de ce monde, c'est à notre résurrection. On va refléter parfaitement là, l'image de Dieu. Mais sur terre, il faut grandir dans notre foi. Et puis, Dieu va l'améliorer puis la restaurer tranquillement. Mon père, quand j'étais jeune, a acheté un Oldsmobile 1934. Mon père a une collection de voitures antiques, puis de longue date, là, se plaît à les restaurer. Quand mon père a acheté cette voiture-là, c'était vraiment une épave. C'est une voiture qui était finie. Elle n'était pas comme quand elle sortait en 1934 de la chaîne de montage, loin de là. Et puis, avec les années, mon père l'a restaurée, et puis il allait des marchés aux puces, à Hershey, puis aux États-Unis, pour acheter des pièces originales, neuves, dans la boîte. Il y a un marché pour ça. De nos jours, ben, mon père ne va plus aux États-Unis, il log sur eBay, et puis il réussit là, à trouver les mêmes choses, là, mais sans voyager. À chaque année, mon père l'a améliorée. Je vous dirais qu'elle est pratiquement finie. Au moment où je vous parle, la Oldsmobile 34 ressemble pas mal, avec juste des pièces originales, à ce qu'elle était quand elle est sortie de la chaîne de montage. Mon père, à travers les années, a restauré son Oldsmobile 34 en changeant certaines pièces, en l'améliorant, etc. Et puis, nous, vous savez, quand on va être au dernier jour, on va être mieux qu'à notre conversion, hein, infiniment mieux. On va être comme on aurait dû être si Adam et Ève n'auraient pas péché. Il y a des croyants, malheureusement, qui ne prennent pas au sérieux leur responsabilité de grandir. C'est Dieu qui produit la croissance. Hein? Ce n'est pas nous qui grandissons de nous-mêmes. La croissance spirituelle, c'est généré par Dieu, par l'Esprit-Saint. Mais on peut y mettre des bâtons dans les roues, de plusieurs manières. On peut l'empêcher de nous faire grandir. Puis Dieu ne forcera pas la croissance dans nos vies. On peut l'empêcher de bien des manières. On peut empêcher là, Dieu de nous faire grandir par des péchés non confessés, de ne pas se repentir de certaines fautes, par de l'amertume, en ne pardonnant pas à quelqu'un. On peut mettre des bâtons dans les roues du Seigneur en délaissant l'Assemblée, en délaissant sa parole, en délaissant la prière. Il y a un grand nombre de moyens, malheureusement, facilement à notre disposition. Hein. On a une tendance naturelle à les prendre comme croyant ces moyens-là. Et puis, tous ces moyens-là peuvent bloquer l'Esprit-Saint, peuvent même l'attrister. Michel a fait une excellente prédication là-dessus. Il y a peut-être un an, là, il est venu d'affaires à Shawinigan-Sun. Ça a été bien apprécié. Donc, on peut aussi attrister l'Esprit-Saint, on le voit dans Éphésiens. Donc, on n'a pas la responsabilité de générer la croissance, de la créer, mais on a la responsabilité de laisser Dieu agir dans nos vies. Et puis, on le voit à plusieurs endroits dans la parole quand même. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Hein, c'est nous qui devons se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je pourrais vous parler là, de Philippiens 2, 12 et 13, où Dieu nous dit que chaque enfant de Dieu doit travailler activement à la sanctification. Dans Hébreux 12, Dieu nous commande de poursuivre notre consécration. Et puis on est rappelé qu'ultimement, il n'y a pas personne qui peut voir Dieu là, sans être saint. Ce ne sera pas un problème. Au dernier jour, on va l'être parfaitement, dans tous les sens du terme. Mais on voit vraiment, dans tout le Nouveau Testament, que Dieu nous commande et puis nous encourage, nous exhorte à poursuivre notre sanctification, poursuivre notre consécration. Donc, la restauration de l'image de Dieu, c'est pas nous qui la créons. C'est pas nous qui réparerons l'image de Dieu dans nous. On n'est pas capable. On n'a pas la capacité de le faire. C'est l'Esprit Saint. Hein? Quand on se convertit, c'est pas la fin. Hein? On n'est pas arrivé à destination, c'est le début. Quand on se convertit, c'est le début de la lutte. C'est le début d'une longue histoire où Dieu nous restaure graduellement. Parfois, c'est à travers des épreuves assez douloureuses, puis à travers beaucoup de peine et de tristesse. Parfois, c'est à travers des joies. Mais le Seigneur nous transforme et puis nous fait progresser pour qu'on ressemble de plus en plus à lui. Mais malheureusement, certains croyants là, ne progressent que très peu. Corinthiens dit qu'ils vont être sauvés comme au travers du feu au dernier jour, tandis que certaines personnes progressent plus dans leur vie chrétienne à la ressemblance là, du Seigneur. Il y a plusieurs implications d'être porteur de l'image de Dieu. C'est intéressant de voir que la raison pour laquelle le meurtre est interdit, ben, c'est à cause de l'image de Dieu. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous vous souvenez, c'est un crime d'atteindre puis de salir la statue d'un souverain. Et puis quand on tue un autre homme, ben, on est en train de salir la statue vivante. Elle est abîmée, je suis d'accord avec vous, pour un non-chrétien par exemple, puis même un chrétien, mais on est en train de salir la statue de Dieu. C'est pour ça que le meurtre est interdit dans la parole, parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. Genèse 9:6. Écoutez, même dans le cadre de l'Église, 1 Corinthiens 11:7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Évidemment, ce soir, là, je ne veux pas rentrer là, dans le débat là, sur le port du voile. Ce serait vraiment déplacé là, de ma part, là, un pasteur baptiste, invité à une assemblée des frères là, de parler là, du voile. Là, et puis, Dieu m'en garde. Là. Mais le point que je veux faire par ce verset-là, c'est que Paul, Dieu par Paul, a donné des instructions précises à l'Église de Corinthe. Et puis, la raison pour laquelle Dieu voulait qu'il y ait de l'ordre dans l'Église de Corinthe, ben, c'est parce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. On le voit dans Corinthiens 11. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait de l'ordre dans l'Église de Corinthe. Malheureusement, il n'y en avait pas. Nous, ici à l'Assemblée du Cap de la Madeleine, on est une communauté de croyants qui ont été rachetés et puis dans lequel Dieu restaure graduellement son image. Dieu va restaurer l'image de tous les croyants qui le laissent faire. J'ai parlé du meurtre, j'ai parlé de l'ordre dans l'Église. On pourrait faire toutes sortes d'applications. Des applications au niveau de l'abus conjugal, par exemple. Quand, malheureusement, il y a des abus physiques dans un couple, ben, c'est mal parce que l'abuseur est en train de salir, puis d'abîmer, de mépriser l'image de Dieu chez sa femme ou chez son mari, si l'abus est fait envers le mari. Puis, les abus se font souvent dans le secret d'une maison, les portes closes. Sauf que les anges, de la même manière qu'ils voyaient ce qui se passait à Corinthe, ben, ils voient ce qui se passe, les anges, les principautés spirituelles, Dieu, ils voient ce qui se passe dans les maisons aussi. Puis la gloire de Dieu est proclamée dans les maisons ou diminuée, selon ce qui arrive avec toutes les images de Dieu dans les maisons de chrétiens, comme dans les maisons de non-chrétiens. Mais je serais porté à vous dire que c'est pire quand un chrétien, un enfant de Dieu véritable, avec son esprit, quelle tristesse y a-t-il dans le ciel quand des enfants de Dieu abîment l'image de leur propre Dieu dans les foyers, les portes closes? Il y aurait plusieurs applications. Il y en aurait également au niveau de la parole. Donc, dans Jacques 3:9, je vais y revenir un petit peu plus loin. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, la langue. Dans Jacques 3, là, le chapitre de Jacques sur la langue, les paroles. Et par elle, nous maudissons les hommes. Qu'est-ce que Jacques ajoute? Fait à l'image de Dieu. La raison pour laquelle c'est mal, si je parle en mal de mon frère Donald ici, la raison pour laquelle c'est mal, c'est parce que Donald est fait à l'image de Dieu. Si je parle en mal d'un collègue de travail non chrétien, ben c'est mal quand même, parce qu'il était fait à l'image de Dieu lui aussi. Donc, quand je parle en mal de quelqu'un, c'est mal pas à cause de la personne. Quand je tue quelqu'un, c'est mal pas parce que la société dit que c'est mal ou parce que c'est pas toléré. La société tolère toutes sortes de choses qui sont mal, puis elle ne tolère pas des choses qui sont bien, fait que c'est le monde à l'envers dans la société. C'est mal quand on tue quelqu'un à cause de l'image de Dieu. Ici, on voit le verset que j'ai nommé tantôt ici. On peut se poser la question suivante. L'homme est vraiment fait à l'image de Dieu, pourquoi l'Ancien Testament légalise-t-il le trafic des esclaves? C'est une question qu'on peut se poser. Vous savez, souvent, on lit notre Ancien Testament qui date quand même là, de au moins 3000 ans selon les périodes dans l'Ancien. Hein? Et puis, quand on lit là, il y a 3200 ans là, la loi de Moïse et puis tout ça, on est porté à associer l'esclavage à celui des Noirs qu'on voit des fois dans les films, par exemple, là, qui s'est passé seulement quelques centaines d'années. Et puis, il faut se souvenir qu'à l'époque de Moïse, l'esclavage n'était pas du tout dégradant comme dans les années 17 puis 1800. On s'entend que ce n'était pas le meilleur standing à avoir, là, être esclave, même il y a 3000 ans. Mais quand même, malheureusement, dans les années 17 puis 1800, être esclave, c'était quelque chose d'absolument horrible. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu « Grâce du ciel », un bon film qui est sorti récemment, là, qui raconte un petit peu la victoire d'un chrétien, là, William Wilberforce, dans les années 1800, contre l'esclavage. Très bon film, on l'a projeté, nous, à l'église, un dimanche soir. Vous savez, c'est pas du tout la même chose. À l'époque, des Juifs, c'était comme dans une certaine forme, un genre d'emploi, qu'être un esclave, puis il y avait certains droits, puis privilèges rattachés là, à cela. Souvenez-vous, ce qui me définit me dirige. Ou encore, si vous aimez mieux, on est dirigé, puis contrôlé même, par ce qui nous définit dans notre cœur. Pas tout l'intellectuel, là, parce qu'on fait toutes sortes de choses dans notre tête, mais dans notre cœur, qui on est vraiment, hein, ce qui nous fait vibrer, ce en quoi on va investir du temps, ce qui est important vraiment pour nous, hein, qui on est vraiment dans notre cœur, bien, c'est ce qui va nous contrôler. Puis le reste de notre vie va en découler, même comme enfant de Dieu. Même avec l'Esprit Saint en dedans de nous, parce que Dieu ne forcera pas la sanctification. Si moi, à l'intérieur de moi-même, je me définis premièrement comme un chiropratien, un chiropratique va passer avant ma famille, avant mon église, avant mes loisirs. Puis, si je me définis profondément à l'intérieur de moi-même, de mon cœur, comme un sportif, je vais faire du sport, je vais bien manger, ça va contrôler ma vie. Si la première chose dans ma vie qui me définit, je me définis comme quelqu'un qui aime le fun, quelqu'un qui aime les loisirs, quelqu'un qui aime avoir du bon temps et profiter de la vie au maximum. À l'époque de Gédéon, c'était Baal, qui était une idole très commune de nos jours. Les loisirs, le plaisir, les divertissements vont prendre la place de Dieu dans la vie de bien des non-croyants et de bien des croyants, malheureusement. Si moi, dans le fond de mon cœur, je me définis comme quelqu'un qui aime les loisirs, je vais centrer ma vie sur le loisir et le divertissement. C'est ça qui va diriger mes décisions. Ça va diriger le degré d'implication que je vais avoir dans mon église. Ça va diriger le nombre de minutes que je vais donner à mon Dieu dans la prière, dans la méditation des Écritures. Dans le cadre de mes cours, j'ai eu le privilège dans les dernières années de suivre des cours en counseling biblique, puis j'ai pu étudier le comportement de ceux qui commettent des viols. Puis les gens qui commettent des viols se voient dans leur tête comme des gens à qui tout leur est dû. Bien des violeurs n'ont pas de remords à commettre leur forfait. Puis quand ils violent quelqu'un dans leur tête, ils prennent leur dû. Parce que comment ils se définissent? Ils se définissent comme quelqu'un à qui tout leur est dû, à qui on ne peut pas rien refuser. Ils ne voient pas leur victime comme porteuse de l'image de Dieu. Ils la voient comme un objet. Vous comprenez comment la manière dont on se définit, la manière dont on va définir notre entourage, ça va diriger bien des actions. Ça va diriger notre vie à bien des égards. Souvent, quand on fait des suivis de counseling biblique pour des gens qui en font la demande ou qui qui vivent des temps difficiles, qui en ont besoin, on revient sur qui on est puis sur qui notre entourage est vraiment. Et puis parfois, quand on revient à la parole, le Seigneur règle bien d'autres problèmes là. Par le fait même. Si je me définis comme un porteur de l'image de Dieu, un porteur dont l'Esprit Saint est en train de restaurer son image, l'image parfaite de Dieu. Ben, je vais agir comme tel. Et puis, c'est ce qui va me diriger dans ma vie. Hein, on va agir envers les autres de la manière dont on les voit. Si on les voit comme des gens respectables, on va les respecter. Si on voit comme des gens méprisables, on va les mépriser. Si on les voit comme des objets, on va les traiter comme des objets. On voit ce principe-là, hein, quelqu'un qui a un nouvel emploi, c'est bien rare qu'il va envoyer promener son boss, son patron. On va le respecter parce que quand on a un nouvel emploi, notre patron est respectable. Parfois, si on est au même travail depuis un petit bout de temps, peut-être que notre patron va être moins respectable. Si il l'est moins dans notre cœur, ben, on va moins le respecter. On va agir sur comment on le voit, sur comment on le définit. Puis ça va se faire naturellement, ça va se faire automatiquement. Avec un employeur, mais avec des collègues de travail, puis dans la famille aussi. On va agir avec nos enfants, avec notre femme, notre mari, sur la manière dont on les voit, dont on les comprend. Souvenons-nous, frères et sœurs. Puis on a besoin de se rappeler de ces vérités-là. Se rappeler des choses de Dieu, c'est une des exhortations qui est constante dans la parole. On le voit par la circoncision, et puis les phylactères, puis tout le long de la parole, hein, l'importance de se rappeler des choses de Dieu. Parce que notre nature pécheresse est oublieuse depuis Adam. Oublieuse des choses spirituelles. Souvenons-nous qu'on est porteur de l'image de Dieu, puis que notre prochain, chrétien ou non, l'est aussi. Gardons cette vérité-là en tête dans la vie de tous les jours, cette semaine, demain matin, dans la manière dont on va agir avec nos collègues de travail, avec notre épouse, notre mari, nos enfants, nos parents. Gardons cette vérité-là en tête. C'est tous des porteurs de l'image de Dieu. Puis vous allez voir que ce principe-là rend logique la majeure partie, là, sinon la totalité, des commandements de la parole. Terminons par la prière. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui nous en dit plus sur qui on est. Le monde ne nous dit pas, Seigneur, qui on est. Et puis, on reste avec plein de questions sans réponse dans la société, dans le monde. Mais toi, tu nous donnes les réponses aux questions de la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole est un ancre pour nous dans notre vie ici-bas qui est parfois chaotique. Merci pour ta parole. Veuille nous bénir. Et puis, durant le reste de la soirée, mais également toute la semaine qui est à venir, où on a à vivre là, dans un monde qui ne te reconnaît pas, et puis qui ne t'aime pas, qui ne te met pas en premier, qui ne t'obéit pas. Dans le nom de Christ, amen. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Bonne soirée.